ואף על גב שחמור זה הוא טילאי.
Ah oui, c'est une idée importante. Et bien entendu, il y a toute une partie de l'être juif qui est insérée dans les conditionnements naturels.
Mais il n'y a pas que ça.
C'est à la fois naturel, il y a une description possible dans l'ordre naturel, mais c'est en même temps surnaturel, il y a une description possible dans l'ordre surnaturel. Ça me rappelle que j'avais écrit une fois une formule de ce genre il y a très longtemps, dans ce fameux article sur les chrétiens et nous. J'avais remarqué cela, qu'il y a deux hérésies possibles, de ne voir que le côté surnaturel ou de ne voir que le côté naturel. Alors, voilà comment ça m'était apparu à l'époque, que partout dans la Bible, où il y a le mot Israël, les chrétiens ont mis Dieu à la place. Et ce que serait un nationalisme coupé de la Torah, disons un sionisme chrétien, ce serait l'inverse. Partout où il y a le mot Dieu, de mettre Israël à la place. Et vous voyez les deux hérésies possibles. Et j'ai entendu une fois une déclamation d'un poème de Tchernychovski, qui était un peu comme ça, la Haskala comme matrice du sionisme chiloni. Hein? Shema Israël, Israël Elokeinu, Israël Echa. Ça a écrit comme ça dans Tchernychovski. Alors ça, c'est l'antichristianisme, si vous voulez. Alors que pour le chrétien, ça consiste à diviniser Israël, l'envoyer dans un monde en molgofière, n'est-ce pas, supraterrestre, de telle sorte de s'arranger avec un monde sans juifs. Vous comprenez le point? Et sans Torah. C'est ça le mot. Et je crois que ça se neutralise. Au fond, cette espèce de nationalisme athée juif, c'est l'antidote au christianisme. Et peut-être que... Alors revenons au problème. C'est pour ça que nous avons peut-être besoin des racines. Et bien que cet âne est quand même naturel comme les autres ânes, « Nipene sheinu tzadikim mitromemim ala olam » par le fait cependant que c'est juste là, Abraham et Moïse, s'élever au-dessus des conditionnements du monde, Haya Seder Beria, Shel Ben Hashemashot, Nehayev Laem Aharon. Leur âne à eux venait nécessairement de cette création du crépuscule d'entre les jours de la nature et les jours de la surnature. Ils chevauchaient ces réalités du monde qui sont créées entre le profane et le sacré, et c'est moi qui formule comme ça, mais disons, entre les jours de la nature et les jours de la surnature. Et c'est ça que veut dire le Midrash, que c'est de l'ordre du Ben Hashemashot que devient leur âme. Je pourrais aller plus loin. Ici, nous avons le thème du chevauchement du corps par l'âme. Et ça veut dire que l'homme et l'âme, c'est aussi l'âme et le corps. Et l'esprit et la matière. Ça veut dire que c'est juste là avec un corps fait de manière différente du monde. Et que, à la limite, la spécificité juive vient beaucoup plus du corps des juifs que de leur âme. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et il doit y avoir une hormone hébraïque. Je dois dire qu'on peut l'acquérir parce que nous avons des bâtis d'inim qui savent en faire la synthèse. Alors, je veux dire, c'est un conditionnement qu'on peut acquérir, mais je veux dire, c'est une manière de vivre la vie naturelle, pas exactement comme les autres corps, qui fait que ces âmes-là sont venues pour Israël plutôt que d'autres. Je veux dire que, à la limite, notre différence ne viendrait pas tellement de la vie spirituelle que de la vie concrète, que de la vie matérielle. Alors, quand on en voit que le folklore, on n'arrive pas à voir en quoi il s'agit de la coutume du bon Dieu, si j'ose dire. C'est le minhag à Kadéjero. C'est ça notre folklore. Mais ça vient des comportements concrets. Kemo Shaveria Shechete Meverechit, l'estam Rechiva, Ben Seder Ben Hashemashot, Rechiva Miocheret Asot.
Féhi Rechiva, qui est donc un chevauchement, si je veux dire, chez Ayou Mitromenim Alaolam, qui leur permettait de s'élever au-dessus des conditionnements du monde, où Miseder Ben Hashem Hashot, Mesoudar Laem Ahamorazé, Velo Sheaya Bochashibut Klan, Kemoshe Baer, Veloaika. Et il revient donc sur les postulats du départ, enfin les prémices du départ. Ça ne veut pas dire que cet âne, historiquement, avait une importance particulière en tant qu'existant à telle ou telle époque. Mais ça veut dire qu'il est d'une contexture, d'une facture différente, parce que se dévoile en lui cette réalité d'un monde relié à la sainteté, et pas d'un monde coupé à la sainteté. Ça, c'est les autres ânes. Et un âne parmi les autres, tout autant âne que les autres. C'est le monde que le Dieu unique a créé, eh bien, est un âne qui vient non pas des six jours, mais du crépuscule de ces six jours, c'est-à-dire déjà transfiguré par la relation à ce que nous aurons le huitième jour après le septième, c'est-à-dire le monde transfiguré de la volonté du Créateur. Un peu dans ce schéma que nous voyons souvent, que le Créateur dont nous parle la Bible, c'est le Créateur du monde à venir, et que nous sommes dans l'antichambre de ce monde à venir. Et que le plus grand blasphème, ce serait d'admettre que cette antichambre, c'est ça le palais. C'est pas clair.
Non, j'ai pas compris le dernier mot que vous avez dit.
Oui, que l'antichambre, c'est ça le palais. Que l'état de ce monde-ci, c'est cela le monde que Dieu a voulu créer. Qu'il n'y a pas de monde à venir. Bon, c'est finalement assez simple à formuler. Il y a apparemment un paradoxe. Ce monde, c'est Dieu qui l'a créé. Mais ce n'est pas ce monde que Dieu a voulu créer. Les deux choses sont vraies. Alors, nous reconnaissons en ce monde-ci le Dieu du monde à venir. Nous voyons déjà dans ce monde-ci le monde que Dieu a voulu créer vraiment. Mais elle, on l'a montré. Les prophètes, la Gemara dit que même les prophètes ne l'ont pas vu. Mais ils nous ont dit qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu. Dans deux. Au moins une des images, qui sont plus qu'une image, employée dans la Gemara, le vin qui se prépare dans les raisins des six jours du commencement. Alors les raisins sont là. Il faut déjà voir que ce ne sont pas des raisins encore verts comme ils sont, mais que déjà le vin vieux se prépare dedans. Et comme il y a une analogie entre le vin et la sagesse, vous connaissez Zod, Yaïn. Alors Yaïn Ameshuma, Be'inba, Misheshet Yemé Amas. Ce vin qui est déjà en maturation dans ses raisins depuis les six jours du commencement. Ils ont vu cela. Bien. Voilà, nous sommes arrivés à midi moins quart. Le cours de demain déjà. Il nous reste la fin du texte du Maharal. Soit si vous voulez, si vous avez des questions sur ce qui s'est passé dans le texte. Alors, comme vous voulez. Alors, si vous voulez, nous allons avancer, puisqu'il n'y a pas de questions. Vous arrivez à m'entendre sans problème ? Mal. Alors, je parlais de vous. Je crois que pour l'année prochaine, je vais leur demander de mettre le tableau là-bas. Comme ça, ça sera beaucoup plus facile. Hein ? Oui ? Non ? Pas possible. Oui, je pense que c'est bien. Bien. Peut-être déjà pour demain, si j'y arrive. Oui, j'ai pris ma dévise. Ce sera plus facile. Bien. Alors, nous prenons la suite. Bien. Maintenant, juste à présent, le Maharal avait expliqué, et vous rappelez, à partir de l'enseignement de Rashi, le Hé de Hachamor. Cet âne en particulier, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Ben Hashmash. Et maintenant, le Maharal va approfondir encore la question. Et pourquoi tout ce qui nous a été dit à propos de l'âme, c'est-à-dire qu'il s'agit du niveau du conditionnement matériel, naturel, qui est à dépasser pour coïncider avec le projet du Créateur, dans l'ordre de la sainteté, de la transfiguration, comme on pourrait dire, pourquoi cela n'est dit que de l'âne et pas d'un autre animal ? Et ce n'est pas le chameau qu'il va choisir, mais le cheval.
Et il y a des raisons pour cela aussi. Et aussi, il faut approfondir dans ce sujet. Pourquoi, en particulier, il ne chevauchait un âne, velosus, et non pas un cheval, chez Nibra Benachemacho. Un cheval qui aurait été créé dans ce crépuscule. Ça aurait pu être un autre animal qui soit véhicule de cette signification que l'âne porte dans le verset. Da, sache qu'en bria yoter pshuta, qu'il n'y a pas de créature aussi simple, et je vous traduis littéralement, le sens ici, indifférencié. Je pense qu'il faut reprendre un petit peu, pour comprendre ce terme dans la pensée du Maharal, reprendre un peu le vocabulaire de l'évolutionnisme, mais sans du tout coïncider avec la thèse ou la doctrine de l'évolutionnisme, c'est un tout autre chapitre. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une différence de différenciation, d'organisation, je ne sais pas quels sont les termes exacts d'ailleurs dans le vocabulaire zoologique, de phylum, je pense, quelque chose comme ça. Il y a des niveaux d'évolution, pour reprendre ce terme, différents, dans des lignées animales analogues. Quelle est la différence qu'il y a entre un âne et un cheval? Après tout, d'une certaine manière, on pourrait voir le cheval comme le résultat d'une différenciation de l'âne. C'est-à-dire, je ne sais pas en réalité si le cheval est une différenciation de l'âne, suivant les doctrines évolutionnistes, peut-être que c'est une différenciation du bœuf, d'ailleurs. Mais un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'une ligne d'évolution beaucoup plus complexe nous ferait comprendre ces deux niveaux dans le vocabulaire du Maharal, yoter pashut et yoter murkav, plus différencié ou moins différencié. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et alors, voilà ce que le Maharal veut nous faire comprendre. Qu'il y a toujours plus de sainteté ou plus de possibilités de sainteté dans l'indifférencié que dans le différencié. Voilà ce qu'il veut nous faire entendre. Pourquoi on a dit l'âne? Parce que à travers le terme même en hébreu qui désigne l'animal, âne, hamor, homer, il y a allusion au niveau de la matière la plus indifférenciée. Elle est la plus proche du projet du créateur pour la matière. La matière la plus complexe entraîne plus d'impureté, alors que la matière la moins différenciée reste impure par rapport à l'esprit, mais moins impure que ce qui serait plus différencié. Je ne sais pas si j'ai encore réussi à exprimer cela. Ça vous renvoie à tout le problème de la cache-route. Quelles sont les espèces animales qui sont définies comme pures par la Torah dans le problème de la cache-route, et quelles sont les espèces animales qui sont définies comme impures? Le critère que je vous donne là n'est pas du tout, j'ai pas du tout l'intention de le formuler en termes scientifiques précis. Mais c'est un peu dans ce sens-là que ce principe pourrait être formulé. Toute lignée animale qui est encore dans l'ordre de l'indifférenciation du point de vue d'une évolution éventuelle est pure. Tout ce qui est déjà particularisé, différencié, résultat déjà d'une histoire devenue, c'est cela l'impureté. Parce qu'elle comporte les déchets de son antérieur, alors que l'indifférencié a tout l'avenir devant lui et le moins de déchets possible encore. Est-ce que cette description vous suffit à comprendre? Bien entendu, il faudrait que des spécialistes de ces problèmes recodent le vocabulaire précis. J'en ai pas la compétence, mais je pense que ça peut se faire. Pardon?
Il y a une possibilité de repentance pour l'espèce animale?
J'ai pas entendu. Il y a une possibilité
de repentance?
Ah oui, ah, très bien. Il y a la Gemara dit même que le porc lui-même reviendra à sa pureté originelle.
Oui. Ça existe en langage scientifique. Ils appellent ça des différenciations.
Très bien, très bien. Dans cette source de Gemara que je vous cite, c'est le mot hazir est de la racine la hazor, de revenir à, qu'il est destiné à revenir à. Bon, je crois que c'est en train de se faire dans les boucheries cachères de Paris, là il paraît. Hein.
Ça veut dire
qu'un stade de transfiguration
de ce monde-ci, avec toutes les scories avec lesquelles il est arrivé au stade où il est arrivé, un stade d'épuration fera que ce qui est devenu, ce qui était devenu tellement différencié que c'était impur, retrouvera une dédifférenciation originelle, une révirginisation. Et après tout, il y a des substances qui accélèrent les processus de différenciation. On pourra peut-être trouver un jour des catalyseurs de dé-involution, je ne sais pas comment dire. Bon, je suis obligé d'employer ce vocabulaire parce que j'en ai pas d'autre à ma disposition. Ça ne veut pas dire que pour la tradition juive, les doctrines, quelles qu'elles soient, de l'évolutionnisme soient cachères. Mais je crois qu'il y a là un concept, une catégorie en tout cas, qui nous permet un peu mieux de comprendre le vocabulaire du Maharal. Pashut, ça veut dire non différencié. Murkav, ça veut dire différencié. Alors, quel véhicule de la matérialité peut être précisément le véhicule de cette tzadikim? Celui qui est le moins différencié. Disons que symboliquement, c'est l'âme qui a été perçue comme l'être vivant à l'état brut encore, et non pas complexifié. Et alors qu'au contraire, des civilisations du parfait dans ce monde-ci préféreront la noblesse du cheval. Enfin, c'est la forme affinée. C'est la forme, vous voyez, c'est-à-dire la chevalerie occidentale.
C'est ça, c'est un brûlé très fort.
Du plastique.
C'est pas moi.
C'est peut-être un appareil.
Je sens un verre ou une cigarette.
Et en plus, je ne sens pas.
On n'a plus le sens. On a plus le sens très bien.
Il n'y a pas de cendrier en plastique.
Alors, ça sent, c'est vrai. Ça sent aussi.
Bien, et vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quand même un niveau de la matière qui est apte à la sainteté de l'âme de façon plus grande. C'est la matière la plus indifférenciée. Ça va dans toute une direction de consigne de moralité dans la conduite la plus concrète que nous trouvons d'ailleurs dans toutes les traditions et en particulier aussi dans le Shulchan Aruch. C'est que la vie biologique la plus simple, la moins différenciée, permet la présence de l'esprit la plus intense.
Alors maintenant, je sens si la foi la plus naïve serait plus grande que l'intellectualisme plus élaboré. Enfin,
il y a pas de... C'est sûr.
Lévinas disait que les gens les plus pieux ne peuvent être que cultivés. Enfin, j'ai mal compris ça sans doute, mais
non, je sais que c'est un peu. Je sais que c'est un peu sa tendance, mais il faut un peu nuancer.
Non, il n'a pas dit pieux. Je pense qu'il voulait dire que l'étude était fondamentale dans le judaïsme et qu'on ne pouvait pas être juif sans étude. Je crois que c'était ça le sens de ce qu'il a dit. Hein.
D'accord. Mais à condition...
Oui, parce qu'à ce moment-là,
condition que, si vous voulez, je pense qu'il y a trois moments. Il y a d'abord la foi du charbonnier, comme on dit, non éclairée par l'étude. Et ça peut mener à n'importe quelle aberration.
Exactement.
Vous comprenez? À partir du moment où... Et on se donne la permission de croire en n'importe quoi, on risque de croire en n'importe quoi.
C'est ce que vous disiez, c'est péché.
Et donc, cette première base de la foi naïve doit être éclairée par l'étude. Mais à condition qu'au-delà de cette étude, on retrouve cette foi, et Emouna Pshuta d'ailleurs, ça se dit, éclairée par l'étude. Mais qu'on ne croit pas dans l'étude, qu'on croit dans ce que l'étude a éclairé. Et là, je pense qu'il y aurait un recodage à faire avec la position de M. Lévinas. Ce n'est pas aussi entière que vous avez dite, je pense. Mais Lévinas a énormément de pudeur de la foi. De méthode, oui. Enfin, j'ai reçu de mes maîtres un peu plus de courage de parler de la foi. Mais je sais que Lévinas a une pudeur absolue. Ça le rend timide et ça le fait transpirer. Parce que, à cause de cela, vous comprenez, croire, bon, alors on risque de croire en n'importe quoi. Donc, il faut éclairer la foi. Mais ce n'est pas l'intelligence qui est l'objet de la foi. Le contenu de la connaissance qui est l'objet de la foi. C'est ce que la bonne volonté fera au-delà. C'est-à-dire, il faut retrouver cette foi pshuta, pure et simple. Et ce que Lévinas dit est certainement beaucoup plus valable pour les maîtres qui doivent dire ce en quoi il faut croire, que pour les disciples.
Une fois,
entre M. Lévinas,
retour à Nantes,
le pshat passe par le drash. C'est le drash qui mène au pshat véritable.
Je vais vous donner une image. Une image que je tiens d'ailleurs du maître de M. Levinas, M. Shushani Zichron Ali Bracha, pourquoi pas, quand on a parlé hier, puisqu'il est venu, Baruch Haba. Il disait ceci. Bon, Dieu a créé le monde, et donc l'homme, un peu comme une mère met au monde son enfant et lui dit « marche ». Bon, marche. Alors, si l'enfant sait parler, il va dire « mais je vais tomber ». Non, non, je te donne la marche à suivre. Halakha. Apprends à marcher. Et alors, il y a deux possibilités. Pourquoi la mère a dit à son enfant « marche » ? Pour qu'il sache marcher et revienne en marchant vers sa mère, ou pour qu'il aille ailleurs ? Vous comprenez ? C'est ça le risque. Et il y a le risque de la souffrance de cette mère qui ne sait pas ce que son enfant va faire de la marche. Ou aller ailleurs, ou revenir lui dire « c'est moi ». Eh bien, voilà, c'est l'ambiguïté de l'étude. L'étude va nous apprendre à marcher tout seul. Mais pourquoi ? Pour revenir à ce en quoi nous croyons avec notre autonomie de marche, ou pour aller ailleurs ? Bon, alors bon, Lévinas, lui, il sait où il va. Mais, parce qu'il a une foi préalable. Vous comprenez ? C'est pas n'importe qui arrive au contenu d'analyse de philosophie de Lévinas. C'est pas n'importe quel philosophe. C'est Lévinas, juif croyant, faisant de la philosophie. Il y a un préalable. Est-ce que c'est clair ? Il y a un postulat préalable. Et moi, je vous citerai Descartes. Ça m'avait beaucoup impressionné quand c'est l'honnêteté de Descartes. Il a parlé de Dieu de manière cartésienne. Un jour, on lui a demandé « En quel Dieu tu crois ?» Il a répondu « Au Dieu de ma nourrice. » Pas au Dieu de Descartes. Au Dieu de ma nourrice. Et je crois que c'est cela. Après tout, en quel Dieu Lévinas croit ? Au Dieu des Juifs, pas au Dieu de Lévinas. Pas au Dieu de la philosophie de Lévinas. Est-ce que c'est clair ? Et ça, le Dieu des Juifs, c'est Emunah Pshuta.
Oui, mais si on n'a pas Emunah Pshuta, peut-être qu'on peut revenir à Emunah justement par le biais de l'étude.
C'est cela, si l'étude mène à la Emunah, bien sûr. Bien sûr.
C'est une des voies.
Oui, oui, mais c'est une voie extrêmement périlleuse.
Une voie périlleuse que
c'est la Hakira dont nous parlerons plus tard. Il y a pas de doute. Et il vaut mieux être après qu'avant. Vous savez, nous avons un peu touché à ce thème au dernier séminaire. Et je reprends la formule que j'avais employée. C'est la différence entre les pharisiens et les sadducéens. Or, il n'y a pas de doute que la pensée de Lévinas est une pensée des pharisiens. Il a écrit d'ailleurs un très beau texte sur le nouveau pharisaïsme, mais quand même, il y a cette espèce de filigrane, de petit clin d'œil philosophique. Et je vais essayer de penser à retrouver ce texte pour demain, nous le lirons ensemble, parce que ça vaut la peine. Ou peut-être pour dimanche prochain, parce que tu feras ton cours si on a le temps. Oui. Mais c'est ceci, le pharisien étudie pour savoir ce en quoi il croit. Et lorsqu'il est éclairé de savoir ce en quoi il croit, l'expérience de la foi est au-delà de cette étude, on oublie. C'est fini, ça, c'est les livres. Vous comprenez ? Et c'est le moment de la prière. Les mots de la prière n'ont le sens que ce que l'étude nous a donné. Mais au moment de la prière, ce sens de l'étude doit être évacué. Et je vais raconter une petite anecdote qu'a raconté le Rav Chaim de Volozhin de son maître, le Gaon de Vilna. Son maître lui avait donné la consigne, fais attention, quand tu pries, te viendront énormément d'éclairages d'études des mots de la prière. Mais repousse, parce que tu pries, tu n'étudies pas, c'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez ? Et alors, le Gaon de Vilna jeûnait pour retrouver les idées qui lui venaient dans la prière, mais qu'il rejetait pour pouvoir prier. Et parce que c'était tellement beau qu'il ne voulait pas les oublier. Et imaginez une ascèse terrible. Voilà. Parce que pendant qu'on prie, on est devant quelqu'un, on lui parle. On n'est pas devant un texte qu'on est en train d'étudier. Et c'est ça le piège. Vous comprenez ? Alors il faut étudier ce texte pour savoir de plus en plus son contenu. Mais la conduite de prière n'est pas la conduite d'étude. Et la conduite d'étude n'est pas la conduite de prière. Alors voilà donc quelle serait la formule. Le pharisien étudie pour comprendre ce en quoi il croit. Mais il croit d'abord et il croit après. Tandis que le sadducéen étudie et il croit dans ce qu'il comprend. Ça c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, c'est un manque d'humour et tout. Croire dans ce que l'on pense. Alors là, vous voyez, c'est assez adigne. Adigne, non, mais délicat. Hein? Et moi, je ne veux pas du tout parler à la place de M. Lévinas ou lui faire dire des choses qu'il n'aurait pas dites, mais on reste à lui à s'expliquer. Mais en tout cas, moi, je fais partie d'une école qui se méfie absolument de l'exercice philosophique à la place du rite. Le rite, c'est le rite. Et c'est la foi simple. L'étude, c'est l'étude.
Justement, en Pologne, il y avait des quantités de gens très simples qui avaient une foi immense et puis qui n'étaient pas cultivés finalement. Alors je me suis demandé, mais alors...
Mais leur maître était cultivé. Ils savaient à quoi ils disaient Amen.
Leur maître, leurs parents, quelquefois simplement.
Ou leurs parents, oui, en tout cas leur peuple.
Alors pourquoi est-ce qu'ils seraient moins pieux que ceux qui ont eu toute une culture dans les...
Parce que je veux dire, là vous me posez une question difficile. Parce que la culture dans ce sens, de la connaissance intellectuelle de journée de la révélation, ça intoxique. C'est de la philosophie d'abord. C'est de la spéculation. Vous comprenez? Et c'est porteur de doute. Ça empoisonne. Il faut le choc de la mort pour se débarrasser du venin de la philosophie. Parce que la philosophie, c'est l'athéisme absolu. Alors qu'on se sert des échafaudages philosophiques, parce qu'on est dans une culture qui est philosophique, pour aborder la connaissance des contenus de la révélation, c'est une chose, dans l'étude. Mais il faut savoir que c'est dangereux. J'en reviens toujours à cette formule. Toutes les hérésies commencent par là. Croire en ce qu'on a pensé. Il faut savoir penser ce que l'on croit, mais ce sont deux hormones très différentes. Parce que chaque fois qu'il y a le risque de faire semblant, qu'en réalité il n'y a pas eu de révélation, que ça ne vient pas de la parole de Dieu, foi simple, mais que c'est la grande sagesse des Juifs, des Hébreux, qui sont le peuple le plus intelligent du monde, c'est ça l'hérésie fondamentale. Voilà. Je crois que j'ai visé l'essentiel. Le génie culturel de notre peuple. C'est vrai qu'il existe, mais c'est autre chose ce que la Bible nous dit, que Dieu a parlé au prophète d'Israël. Et c'est cette parole-là qui nous importe. La pensée des Juifs, c'est un moment culturel très important. Ça nous intéresse. Mais notre destinée n'est pas en jeu avec la pensée des Juifs. Si géniale soit-elle. Notre destinée est en jeu dans la parole de Dieu. Alors, quand on n'ose pas parler comme ça, c'est parce que on craint, à la limite, que parler de la foi, ça fait chrétien. Ça y est, c'est clair. Bon. Moi, je viens d'un pays d'islam, alors je n'ai pas peur de cela. C'est tout, je ne peux pas vous dire ça autrement. Pour moi, l'idée que le christianisme soit la religion vraie par rapport au judaïsme, c'est une idée d'européen, ça. C'est une perplexité européenne. Je ne suis pas européen, je suis africain. D'origine. De naissance, de patrie d'adoption. Mais vous voyez la différence. Je crois qu'il y a un problème de sensibilité auquel je voudrais vous alerter. Les Polonais disaient des Lituaniens, un peu méchamment, et ils n'osent pas dire qu'ils croient parce qu'ils ont une croix à l'envers dans le cœur. À l'envers. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'à la limite, croire, alors ça voudra dire croire comme les chrétiens ou jamais de la vie. Alors, ce jamais de la vie est très authentique. Mais voyez où ça bascule. Si croire, c'est croire comme ça, on ne croit plus. C'est grave. Vous voyez, c'est un désarroi, là. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de sa foi. Hazak ve'emat, c'est la consigne que Moïse a donnée à Josué. Okay? C'est vrai que il faut traverser des barrières de pudeur ou d'impudeur, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, c'est une nuance, pour dire, oui, je crois. Et ça ne veut pas dire que la Torah, ce n'est pas une chorma colossale, mais au-delà de sa chorma, il y a Emouna Pshuta. Sinon, à quoi on s'occupe ? Vous croyez que les Hébreux ont donné la Bible aux Juifs pour faire de la philosophie avec ? Imaginez Dieu créant le monde pour qu'en fin de compte, il y ait des universités où on étudie la Bible. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est clair ? Et oui, toutes ces ch'touillottes qu'on rêve, nous sommes le peuple du livre, nous sommes le peuple du livre. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas un peuple de bibliothécaires. Nous sommes le peuple de celui qui a donné le livre, de la parole qui a écrit dans les pas du livre. C'est tout à fait autre chose. Ça nous vient à Hadaran. Vous voyez qu'est-ce qu'on fait avec des belles paroles. C'est une hérésie fondamentale. Nous ne sommes pas le peuple du livre. C'est contraint et forcé qu'on a mis la parole par écrit. Et ça nous a coûté cher. N'importe quelle traduction, vous les trouvez en librairie. Vous voyez le problème. C'est ça le problème. Alors, il faut bien faire attention à ça. C'est sûr qu'une foi non éclairée est encore une foi...
mélangeant toutes les hérésies.
Non, mais qu'une foi qui porte en elle n'importe quelle hérésie possible.
Oui, mais c'est bon. Ce que je dis, mélangeant toutes les hérésies.
Mais, je veux dire, cette foi de la foi simple, je ne peux pas dire la foi du charbonnier, je ne sais pas d'où ça sort en français d'ailleurs, charbonnier, peu importe. Mais c'est la foi de quelqu'un qui dit Amen à ce qu'un haham lui dit qu'il faut croire. Et alors, dans ce monde de la philosophie religieuse, pas dire Lévinas en particulier, la présence du maître n'est jamais là. Il y a le livre et moi. Et alors c'est, il y a un tabou là-dessus, et qu'il faut démystifier. Hein? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas le livre et moi et le dictionnaire. Il y a celui qui m'a fait lire le livre. Sinon, de quoi je parle? Vous voyez, on revient au livre. Bon, je pense que c'est déjà plus clair. Et il n'y a pas de doute. D'ailleurs, je dois dire que c'est au fur et à mesure que j'avance en âge, pour ne dire que cela, que je pense qu'il faut mettre plus l'accent sur la conduite de la foi. Bien sûr que l'intelligence du contenu est très importante. Mais s'il n'y a pas le comportement de foi, alors nous sommes des clowns à la Libye. Je pense que c'est bon. Oui, vous avez posé une question.
L'intelligence est quand même nécessaire pour pouvoir avoir la foi.
Je ne sais pas.
Et Namar reste Chassid.
Chassid, c'est autre chose. C'est pas Mahamin. Chassid, c'est autre chose.
Ah oui.
Bon, pour ça, vous... Non, mais oui, vous savez, ici dans la Mishnah, il s'agit du Shulchan Aruch. Celui qui ne connaît pas le code du comportement n'a pas le droit d'être pieux sans code. Il y a un code de la piété. Bon, mais il s'agit...
On parle... ça,
vous... Ah, mais vous ne parlez pas de la même chose. Vous ne parlez pas de la même chose.
Mais justement, ce que je comprends pas, c'est que...
Ah, non, je ne crois pas. Alors,
expliquez-moi. Pourquoi vous dites que dès qu'on parle d'étudier, on parle de philosophie?
Non, c'est exactement. C'est pas nécessaire. Enfin, c'est
attendez, attendez, je crois qu'il y a un décalage entre vos deux questions. Vous avez une autre question. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Pour savoir comment il faut faire, il faut apprendre le code.
Limoud.
Attendez. Limoud, ça veut dire le limoud du Shulchan Aruch.
Pas nécessairement.
Ah non, la Gemara, c'est déjà Chokma. Et alors, c'est là qu'il faut faire attention. Vous comprenez, vous mélangez une chose. Vous mélangez deux choses, pardon.
Le Gaon de Vilna, que vous avez cité tout à l'heure.
Oui, mais le Gaon de Vilna.
Il faisait attention à ne pas étudier en priant, il passait quand même sa journée.
Oui, oui, mais c'était un maître, le Gaon de Vilna.
D'accord, mais.
C'était pas un philosophe.
Non, je ne peux pas dire que.
Non, je vais essayer de vous expliquer. C'est très différent d'étudier, c'est-à-dire de se renseigner de ce qu'est le code que je dois appliquer, et d'étudier pour savoir comment formuler le code. C'est deux niveaux très différents. Vous comprenez? Alors, lorsque quelqu'un étudie la Gemara, regardez, lorsque quelqu'un étudie la Gemara, il y a encore deux niveaux. Ou bien il est en, et il peut l'être pour 120 ans, apprenti d'Ayan, apprenti de devenir le juge qui va faire un psaque pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Okay? Ou bien il est déjà au niveau de ce Dayan qui peut enseigner ce qu'il faut faire. Alors, dans cette première période, ou bien ce que l'on a dans l'objectif, c'est, selon la Gemara, comment doit être le Shulchan Aruch. Okay? Mais vous pouvez passer des heures et des jours et des semaines à étudier une question, et si tout de suite il faut savoir comment faire, c'est chez votre rabbin que vous allez demander comment il faut faire. Donc votre étude de Gemara est gratuite. Elle est pour connaître la chokhma du problème. Et c'est là que, je reviens à la première question, c'est là qu'il y a une ambiguïté. Ou bien mon étude, c'est pour éclairer ma foi. Ou bien mon étude, c'est pour me dire en quoi moi je vais croire de ce que moi j'ai pensé.
Non,
ah ben c'est ça, alors là nous sommes d'accord.
Ah oui, mais...
Écoutez, et je vais un peu exagérer dans le sens racidique, exagérer, mais pour éclairer le problème. Celui qui comprend ce qu'il fait a moins de mérite que celui qui ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intérêt du fait d'avoir compris. Il a une raison de faire. Je sais que c'est vrai, j'ai compris que c'est vrai. Mais celui qui ne comprend pas ce qu'il fait, qui le fait quand même,
à un certain niveau, a beaucoup plus de mérite, parce qu'il n'a même pas cet échafaudage de la connaissance. J'ai dit, attendez, ministre. J'ai dit que je vais exagérer dans le sens racine.
Oui, c'est sûr.
Je ne suis pas comme ça, je ne fais pas partie d'une secte racine. Mais simplement pour vous donner un peu un éclairage. C'est ça ce qu'on appelle l'imoud l'ishma. Okay? Étudier pour arriver à cette foi qui n'a plus besoin des raisons de la foi pour être authentique. Maintenant, ceux qui doivent dire en quoi il faut croire, comment il faut faire, cela, Toratam ou Manutam, cela, leur être même, c'est l'étude. Mais c'est très différent, c'est un tout autre niveau. Alors je dis, nous, les simples juifs, qui étudions pour comprendre la sagesse de la Torah, et ça nous aide à savoir ce qu'il faut croire, à comprendre pourquoi il faut faire ce qu'il faut faire, eh bien, il y a ce piège. Il y a ce piège d'une espèce d'attitude sadducéenne, subreptice, dans le projet pharisien lui-même. Voilà, je crois que c'est tout. Et vous verrez que on ne peut pas mettre en commun cette expérience. Vous êtes peut-être à un stade très différent d'un autre, et quelqu'un peut être à un stade très... Pour vous, quelque chose qui va de soi, qu'une étude de ce genre ne peut être que cachère, c'est parce que vous êtes déjà à ce stade d'expérience. Mais pour d'autres, ce piège que je décris est encore là, de façon grave. C'est un peu clair ? Bon. Maintenant, je vais vous dire, là aussi, il ne faut pas croire que, quelle que soit notre capacité d'étude et de compréhension, à part les cas exceptionnels, nous arrivons vraiment à comprendre ce que Dieu a voulu nous dire. Nous sommes tous obligés de passer par quelqu'un qui sait plus parce qu'il a reçu plus. Et c'est pourquoi j'ai restitué cette catégorie du maître qui est malheureusement trop absente de ce genre d'analyse. Vous comprenez ? Mais j'ai pas parlé de Lévinas, j'ai dit de ce genre d'analyse.
Je crois que vous avez tendance à occulter les dangers de la Emouna Pshuta, parce que justement ici ce sont des gens qui visiblement sont là pour étudier. Donc vous passez sous silence toutes les hérésies, toutes les contradictions, toute l'espèce de... Vous citiez vous-même il y a 3 ans la phrase que disent les gens à Alger, c'est péché. C'était une phrase qu'on employait à tout bout de champ, c'est péché, c'était vraiment... Et ça tenait beaucoup plus de la superstition que de la religion. Et moi, je crois que le grand danger de l'Emouna Pshuta, c'est que ça devienne de la superstition pure et simple.
Attendez. Ce que vous dites, vous avez raison. Mais ça ne résout pas le problème. Je veux dire pourquoi.
Non, d'accord.
Parce que le grand danger de l'Emouna Pshuta, c'est quand c'est une Emouna Pshuta de type sadducéen. C'est-à-dire qu'on croit ce qu'on pense. Alors, vous comprenez. Et tant qu'on est encore à ce stade-là, ce qu'on pense soi-même, tant qu'on est encore à ce stade-là, tous les dangers sont possibles. Et alors, on emploie un vocabulaire faux. Et puis on embraye sur des connotations affectives et spirituelles fausses de ce vocabulaire faux, comme par exemple le cas que vous citez. Mais un homme croyant de la Emouna Pshuta croit de façon pashut et absolue, j'ai pas dit aveugle, mais c'est pire que ça, à ce qu'un Talmid Hacham sait.
Quand faut-il qu'il y ait un Talmid?
Voilà, c'est exact. Nous parlons dans un contexte juif. Qu'est-ce que c'est Emouna Hachamim? C'est la Emouna que les Hachamim sont Hachamim. Et je veux dire, deux choses qui sont toutes les deux vraies. Nous n'avons pas d'intermédiaire, mais nous avons des intermédiaires. Et les deux choses sont vraies.
Oui, c'est la capacité d'amour qui change. Parce que, ces gens-là, ces chassidim, ou ces gens très pieux et sans culture, il y avait une capacité d'amour que actuellement, il y a peut-être moins. Quand on se tourne vers des études plus élaborées, je
ne
sais pas si on peut dire amour ou foi, mais
c'est
une chose différente.
Écoutez, je voudrais vous donner peut-être un principe. Parce que le problème que vous avez posé pose encore une question de vocabulaire. On dit capacité d'amour, il faut définir, il faut comprendre.
J'aime les enfants.
Je veux dire ceci. Enfin, ce que l'expérience m'a. C'est que ce danger de voir dans la Torah une espèce de super intellectualité qui serait l'excitant de la vie intellectuelle du juif, et ce serait ça la foi, et c'est pas ça, okay, de voir par exemple dans une page de Gemara un super jeu d'échecs ou un super mot croisé performance, ce danger là n'existe pas chez ceux qui aiment les juifs, c'est à dire qui sont reliés à leur peuple comme communauté. Je ne sais pas si j'ai ajouté quelque chose de compréhensible.
Oui.
C'est-à-dire, il ne s'agit pas de l'amour de Dieu. Parce que là, toutes les hérésies peuvent s'introduire, on ne sait pas de quel idole on parle. De quel excitant spécifique du sentiment religieux. Vous voyez ? Mais de « Ohev et Amo Israël, Be'ahava Shema Israël ». C'est-à-dire, ceux qui ont l'amour de la communauté juive, alors leur étude intellectuelle ne mène pas aux hérésies. Mais l'expérience m'a montré que chez tous ceux qui basculent dans ces hérésies sadducéennes, il y a aussi ce manque de l'amour de Jésus. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Bon. Mais en général, ce sont ceux qui étudient sans kippa. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Comment ça marche ? En quoi la kippa montre qu'on aime les juifs ? Eh bien, vous verrez que dans l'expérience, c'est comme ça. Ça va ensemble. Bien, alors on est quand même arrivé à l'auteur et on va reprendre le paragraphe demain. Ok ? Plus fort, plus fort. Une minute, une minute. S'il vous plaît. Les gens ne vont pas t'allumer. Parlez-vous. Mais c'est ça la vraie. Vous voyez, je vais donner une comparaison. L'amour d'un homme et une femme. C'est une comparaison. Eh bien, si l'amour d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme n'est pas foi simple, émouna, pshuta, sans hormone, pure et simple, c'est pas de l'amour. S'il y a des raisons. Oui, s'il y a des raisons, c'est de l'amour. Si je dis à ma femme, tu es belle, donc je t'aime, je l'aime pas, j'aime sa beauté. Il faut que je lui dise, je t'aime. Grâce à Dieu, quelle chance, en plus, qu'elle est belle. Ça va dans ce sens.